Céline Alvarez, à partir de votre livre « Les lois naturelles de l'enfant » paru aux éditions des Arènes, en tant que pédagogue, vous expliquez avec clarté et passion les grands principes scientifiques qui sous-tendent l'apprentissage et l'épanouissement des enfants. Vous écrivez « Grâce à son intelligence plastique puissante, le jeune enfant emmagasine une grande quantité d'informations par les sens. » Alors, comment affiner les perceptions sensorielles de l'enfant afin de mieux voir, mieux sentir, mieux goûter, mieux percevoir par le toucher? C'est par là, n'est-ce pas, qu'il faut commencer?
Oui, je dirais même qu'il y a encore une petite étape avant cela. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, le cerveau du jeune être humain va se former par toutes les informations qu'il va capter du monde extérieur. Donc, par le canal de ses sens, finalement, il va former son intelligence. Et donc, il va être important de pouvoir l'aider à affiner ses perceptions sensorielles. Mais avant même d'affiner ses perceptions sensorielles, il va falloir lui permettre de capter la richesse de l'information extérieure qui va lui parvenir par sa vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût, par le toucher. Et pour ça, et je tiens à le dire parce que vraiment ça me semble capital et très important, il ne s'agit pas, encore une fois, de placer nos enfants devant des objets qui brillent de partout, qui ont des textures, plein de textures différentes, où ça clignote dans tous les sens et ça fait du bruit dans tous les sens, parce que là, on arrive à une surstimulation sensorielle qui n'est pas naturelle et qui va, au lieu d'intéresser l'enfant, va peut-être complètement l'effarer, en fait. S'il reste les yeux grands ouverts devant ces objets-là, c'est peut-être plus parce qu'il est complètement sidéré que par attention. Il risque, finalement, d'être lui aussi hyperactif avec cette sursimulation-là, va le surstimuler, va le rendre hyperactif, en tout cas sur un moment donné. Donc il est important de faire, encore une fois, de proposer, non pas même pas des stimulations sensorielles, mais simplement des informations sensorielles naturelles. Il s'agit simplement de permettre à nos enfants d'être en contact avec la nature, d'être en contact avec nos objets quotidiens, avec nous, avec nos interactions langagières, sociales, avec toutes ces informations culturelles et qui font partie de son environnement quotidien. C'est d'abord ça. C'est d'abord le remettre en contact avec le monde. C'est d'abord ça qu'il faut permettre à nos enfants, avant de les exposer à des choses qui ne sont pas le monde, et qui vont solliciter ses sens hors contexte. Et une fois qu'on a permis aux enfants de voir les couleurs dans le monde extérieur, de sentir les odeurs de l'extérieur, des légumes, des fruits, des fleurs, même de notre parfum, peu importe, bref, de le mettre vraiment en contact avec le monde réel, ensuite, il est extrêmement intéressant de lui permettre d'affiner toutes ses perceptions. Mais avant d'affiner, il faut qu'il en ait eu. Sinon, ça ne sert à rien. Et par exemple, je cite ça parce qu'à Gennevilliers, il y a des enfants qui avaient reçu très peu d'informations olfactives, auditives, même visuelles. Donc, c'était compliqué ensuite de vouloir affiner le sens puisqu'il y avait peu d'informations. Donc, c'est vraiment important de recréer ce lien avec le monde réel. Ensuite, il faut pouvoir aider l'enfant à mieux voir, du coup. Par exemple, je peux prendre le sens visuel, les couleurs. Une fois que l'enfant a été mis en contact avec les couleurs dans le monde réel, il est très intéressant de lui proposer des tablettes de couleurs. Alors ça, Montessori avait proposé ça et c'est très intéressant, mais ça peut être un autre matériel qui va isoler les couleurs et on va pouvoir nommer les couleurs avec l'enfant. Et peut-être donc déjà le fait de nommer une perception sensorielle, ça va permettre d'ordonner en fait les perceptions de l'enfant. Il faut se dire, ah d'accord, ça c'est rouge, cette perception, ce que je percevais de l'extérieur, ça s'appelle rouge, ça s'appelle jaune, ça c'est rose, etc. Et bien cette clé qu'on donne aux enfants va leur permettre non seulement d'ordonner toutes les perceptions sensorielles qu'ils avaient déjà eues, mais aussi de les préciser. Ils vont comprendre qu'il y a des rouges plus ou moins foncés, des jaunes plus ou moins foncés, pareil pour les roses, etc. Donc ils vont commencer à préciser leur perception visuelle. Ça va être pareil pour le goût, pareil pour le toucher, pareil pour l'odorat, pareil pour la discrimination des dimensions. Donc il s'agit de pouvoir avec du matériel qui est intéressant, c'est-à-dire qui ne surstimule pas l'enfant et qui lui permet de manière progressive de challenger quelque part ses sens de manière de plus en plus poussée avec une difficulté de plus en plus importante. Mais cet affinement des sens qui est nécessaire parce que ça va permettre l'affinement de l'intelligence aussi, la précision de l'intelligence, elle ne vient que dans un second temps, lorsqu'on a permis à l'enfant d'être en contact avec le monde et non pas face à des substituts de réalité dont il va se lasser et qui seront abîmés, perdus, cassés très rapidement. Parce que ça ne satisfera jamais son intelligence en plein développement qui demande du réel, de la vie, de la profondeur. Il va les abîmer, il va les casser, il va les perdre et on devra en racheter d'autres. Plus ceci et plus cela, et c'est une spirale infernale qui s'enclenche.
En fait, c'est des choses qu'on fait assez naturellement. Par exemple, si on prend une couleur, là, on va montrer un gros cliquot, on va dire, tiens, c'est rouge. Puis après, on va déjà le nommer. Puis après, on va dire aux enfants, qu'est-ce que tu vois de rouge? Et donc, il va nous montrer le coquelicot, par exemple, qui est rouge, ou une fraise, ou autre chose. Et puis, après, on vous dit, on demande à l'enfant de l'identifier. On montre le coquelicot et on dit, quelle couleur c'est?
Voilà. Exactement.
Donc, c'est des choses qui se font très naturellement. Il faut retrouver les fondamentaux, c'est ça?
Exactement. Moi, s'il y a un message que je peux faire passer avec ce livre, et qui me rendrait très heureuse, c'est que, on comprenne que la posture qu'on a assez naturellement avec nos enfants ou avec nos petits-enfants, eh bien, elle est juste. Il faut qu'on se fasse confiance et il n'y a pas besoin de beaucoup plus, en fait. Il s'agit simplement peut-être que de proposer d'autres choses, simplement d'offrir plus de moments de ce type, de cette qualité-là à nos enfants, plus d'échanges. Parce que de toute façon, l'étayage qu'on va leur fournir, comme vous le dites si bien, eh bien, il va être juste. Et on le verra, la concentration de l'enfant, l'attention de l'enfant, et puis à ces démonstrations aussi de tendresse qui vont suivre après ça. Parce que c'est un échange aussi d'amour quand on a ces moments-là avec les enfants. Et ils le ressentent comme tel. Et on sait que ça va faire maturer aussi toute leur structure cérébrale, cette posture chaleureuse et aimante. Donc oui, finalement, tout ce que je suis en train de dire là, est-ce que la plupart des choses que nous apprennent les neurosciences actuelles, eh bien, c'est des choses qu'on savait déjà intuitivement.
Ça ne fait que confirmer.
Et qu'on faisait déjà très bien. Et peut-être que ça nous rappelle qu'il est important de se recentrer là-dessus, de revenir encore une fois à l'essentiel.
Vous écrivez aussi une chose très importante, c'est que le cerveau, ce qu'on apprend dans les neurosciences, le cerveau ne peut pas traiter deux informations en même temps. Donc, il faut, quand on essaie d'apprendre les choses aux enfants, à chaque fois se simplifier, apprendre une chose puis une autre.
Exactement. Il ne faut pas créer de double tâche, surtout chez les tout-petits. Alors c'est pareil chez l'être humain en général, mais les tout-petits, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas le contrôle inhibiteur qui va leur permettre d'inhiber une difficulté pour se concentrer uniquement sur une seule. Il s'agit simplement, mais ce qu'on a tendance à faire déjà naturellement, d'y aller progressivement, de ne pas proposer aux enfants deux choses en même temps. Me vient l'exemple de l'écriture, parce que je l'ai beaucoup fait avec les enfants. Si on dit à un enfant, alors regarde, ça c'est M et ça fait M, il y a deux informations. Il va devoir inhiber l'une d'entre elles pour apprendre la plus importante, qui est le son de la lettre, et qu'on va lui demander ensuite, finalement, pour apprendre le code alphabétique. Donc, il s'agit, effectivement, pour nos enfants, de ne pas créer de double tâche, parce que, de toute façon, sur les deux tâches qu'on va lui proposer, il y en a une qui ne passera pas, qui va être différée par rapport à l'autre, ou même qui va ralentir l'absorption de la première connaissance. Donc, mais ça, on le fait déjà naturellement.
Donc, pour se concentrer bien, on en a parlé déjà plusieurs fois dans différentes émissions, vous donnez des exemples, moi, qui me plaisent beaucoup, parce que c'est tout simple, c'est des choses qu'on fait naturellement toujours aussi. Par exemple, jouer à un 2-3 soleil,
oui.
Ce sont des choses, ou à ni oui ni non, qui vont apprendre aux enfants justement à se contrôler, n'est-ce pas?
Exactement, ça va permettre le développement d'une des compétences exécutives que j'évoquais tout à l'heure, qui est le contrôle inhibiteur. Et d'ailleurs, on remarquera que le 1-2-3 soleil ou le ni oui ni non, c'est presque universel. Ça s'appelle différemment, ou comment s'appelait le Jacques a dit. Jacques a dit, faites ceci, puis quand Jacques n'a pas dit, on ne doit pas faire l'action qui a été dite. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment toutes les cultures, sous différents noms. Et aux mêmes âges, les enfants du même âge, à peu près vers 4 ans, ont très envie de jouer à Jacques a dit, ou à ni oui ni non, ou à 1-2-3 soleil. C'est parce que ça va permettre l'exercice du contrôle inhibiteur qui est en plein développement. Ils vont devoir inhiber une information pour en répondre à une autre, en fait. Et des choses aussi simples que ça, eh bien oui, qui permettent aux enfants de développer des choses très, vraiment capitales pour eux.
Alors, il y a cet exemple vraiment qui est truculent, qui est gourmand, l'histoire des chamallows.
Ah oui, c'est une étude qui a montré que... Alors, il est à la fois très drôle, hein, cet exemple, et en même temps assez dramatique. Mais oui, c'est une étude qui a montré qu'on pouvait corréler la capacité de jeunes enfants à se contrôler et leur réussite professionnelle et même globale plus tard. Lorsque les enfants à 4 ans montraient un contrôle inhibiteur opérationnel, lorsqu'ils étaient capables de se contrôler, de différer une envie, donc là en l'occurrence de manger immédiatement un chamallow ou d'attendre le retour de l'expérimentateur et d'en avoir deux s'ils n'avaient pas mangé le premier. Donc si les enfants étaient capables de différer leur envie pressante de manger le chamallow à 4 ans, eh bien ils avaient un avenir plus assuré. L'étude a montré que quand on les a testés ensuite à 30 ans, ils avaient une meilleure réussite globale, professionnelle, sociale et même une meilleure santé. Disons qu'il y avait un expérimentateur qui plaçait un chamallow devant l'enfant, donc des enfants de 4 ans. Et il lui disait, alors voilà, tu as un chamallow devant toi, tu peux le manger tout de suite, mais je vais sortir 20 minutes de la salle, ou c'est 5 minutes je crois, je vais sortir de la salle, et quand je reviens, si tu n'as pas mangé le chamallow, alors je t'en donnerai un deuxième, et tu pourras manger les deux. Et donc c'était une manière très intéressante et très efficace de tester le contrôle inhibiteur des enfants. Oui. Et on a clairement corrélé ça, la capacité des enfants à patienter, à se contrôler, avec une meilleure réussite à l'âge adulte.
Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui auraient mangé les chamallows tout de suite.
Je trouve qu'au passage, si cette étude permet de tester de manière assez efficace le contrôle inhibiteur des enfants, il permet aussi de montrer à quel point cet aliment est addictif et donc potentiellement toxique.
Alvarez, donc lors de cette période de grande impressionnabilité cérébrale, il semble également important d'offrir à l'enfant la possibilité de préciser leurs connaissances culturelles. Alors la géographie, la musique, la géométrie, etc. Vous écrivez qu'il faut offrir la culture d'une façon sensorielle, claire et progressive. Alors prenons l'exemple de la géographie. Comment vous allez proposer à des petits, des 3, 4, 5 ans, la géographie ?
Dans un premier temps, on va leur présenter un globe. Donc ça, c'est du matériel qui a été pensé par Maria Montessori, donc qui est assez remarquable et qui doit non pas être pris, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sacralisent ce matériel et qui le voient comme une espèce de finalité et qui n'osent même plus l'utiliser de peur de mal l'utiliser. C'est une erreur, il faut vraiment utiliser ce matériel comme une béquille, hein, vraiment une béquille didactique qui va nous permettre de mettre en lien l'enfant avec le monde. C'est tout ce qu'est ce matériel et c'est la place qu'il doit avoir. Et donc, on leur proposait d'abord un globe avec l'eau qui était représentée en bleu, avec les parties de terre qui étaient représentées rugueux, avec un petit peu de sable comme ça. Donc l'enfant pouvait sensoriellement vraiment voir la différence entre la représentation de la terre et la représentation de l'eau. Et puis nous leur disions, alors, donc là ils avaient 2 ans et demi, 3 ans, hein, et on leur disait, alors voilà, tiens, je te montre une représentation de la planète Terre. Parce que tu sais, nous, on habite tous sur la planète Terre. Et là, il fallait voir les yeux de ces enfants qui s'écarquillaient et qui regardaient et qui s'emparaient, hein, de ce globe, le prenant, le tournant pour voir un petit peu de quoi il s'agissait. Et puis, on leur disait, alors, tu vois, sur la planète Terre, eh bien, il y a de l'eau, et on touchait la partie qui représentait l'eau, et il y a de la Terre. Et donc, l'enfant donc, le répétait après nous, et puis, on le laissait après manipuler ce globe. Et donc là, ils se rendent compte déjà qu'ils ont déjà une représentation de la planète sur laquelle ils vivent. Et puis ensuite, ils vont pouvoir rapidement comprendre sensoriellement que la planète est divisée en espèces de deux éléments. Il y a de l'eau et il y a de la Terre. Et puis après, on leur présente un autre globe où on leur dit, tu vois, la Terre, on l'a séparée en différents continents. Et là, la Terre qui était auparavant rugueuse, d'une seule couleur unie, là, elle apparaît sur ce deuxième globe avec les continents sont de couleurs différentes. Et donc l'enfant perçoit que les continents, c'est la Terre qui a été séparée en différents morceaux arbitrairement, quoi, comme ça, de manière abstraite. Et donc, rapidement, on leur donne les noms des continents ensuite. On leur dit, tu vois, ce continent-là, donc il nomme que c'est un continent, c'est un continent, c'est un continent. Donc, ils apprennent la terminologie, le mot continent. C'est assez fabuleux à 3 ans parce qu'ils comprennent très bien le concept. Et ensuite, on leur dit, ce continent-là, donc après, à l'aide d'un planisphère, donc c'est un puzzle, tout simplement. Un puzzle tout simple avec les continents qui s'encastrent dans un planisphère, qui ont la même couleur que sur le globe. Et on dit aux enfants, tu vois, ce continent-là, eh bien, c'est l'Europe. Et celui-là, c'est l'Afrique. Et celui-là, c'est l'Asie. Et nous, tu vois, on habite sur le continent Europe, sur le continent là qui est rouge, parce qu'il est rouge en général sur les puzzles. Et ça les fascine. Et ils adorent. Et puis ensuite, quand ils sont un petit peu plus grands, eh bien, on va leur présenter un puzzle plus grand de l'Europe, un grand puzzle de l'Europe, où on va lui dire, tu vois, là, l'Europe, eh bien, on l'a séparée en pays. Au sein de l'Europe, donc du continent Europe, il y a encore une séparation qu'on appelle des pays. Et on va nommer avec l'enfant les pays. Donc il peut sortir toutes les pièces du puzzle, tous les pays du puzzle, et puis les remettre un par un en les nommant. À ce moment-là, en général, ils lisent, les enfants. Donc avec une espèce de carte qui est associée au grand puzzle, ils peuvent lire le nom des pays. Et puis à chaque fois qu'ils replacent un pays, ils peuvent regarder le nom du pays et le lire. Et tout ça se fait de manière informelle. formelles, sans grandes leçons magistrales, mais ils finissent par, autour de 4 ans et demi, 5 ans, ils savent déjà le nom des continents, ils savent ce qu'est un continent, et puis ils savent à peu près où se situent les pays, voilà, ils savent que la Norvège, c'est à peu près par là, la Namibie, c'est à peu près par là, voilà. Ils ont une idée déjà, une représentation mentale de la répartition géographique des pays et des continents. Et ça, je trouve que c'est très fort. Et ils aiment beaucoup parce que ça vient aussi poser, comme je disais tout à l'heure avec les couleurs, ça va venir ordonner des perceptions sensorielles qu'ils ont eues au préalable en nommant, par exemple, en nommant et en donnant une représentation mentale de ce qu'ils avaient pu percevoir auparavant. Par exemple, je pense à des enfants qui partent en vacances pendant les grandes vacances et qui peuvent changer de continent pendant les vacances. Je pense notamment à des enfants qui partaient en Tunisie, au Maroc, ou en Algérie, ou en Espagne, au Portugal. Bon là, ils ne changent pas de continent, mais ils changent de pays. Et donc, quand ils revenaient de vacances, on leur disait « Mais tu étais où pendant les vacances ?»« Moi, j'étais au Portugal ou j'étais en Algérie. » Et puis, pour eux, c'était très abstrait. Ils ne savaient pas du tout qu'ils avaient soit traversé la mer, soit traversé une frontière. Et on leur disait « Mais regarde, le Portugal, c'est là. Ce n'est plus sur le pays France. C'est toujours sur le continent Europe, mais c'est là. » Et donc, on place le Portugal. Et puis, pareil pour l'Algérie. On dit « Mais tu vois ?» L'Algérie, là, ce n'est plus sur le continent Europe. Et donc l'enfant allait jusqu'au meuble des continents chercher le lourd puzzle du continent Afrique et on retrouvait l'emplacement de l'Algérie ou de la Tunisie, du Maroc. Ou pareil, un enfant qui était allé aux grandes vacances voir sa maman au Japon, quand il est revenu, c'était le héros de la classe parce que c'était le seul à être allé sur le continent Asie et à pouvoir sortir le Japon et dire qu'il avait été... au Japon, sur le continent Asie. Donc ça vient ordonner la compréhension du monde extérieur de l'enfant. Et ils adorent ça.
Et alors, je rappelle aussi d'aller voir votre site, hein, Céline Alvarez. Donc c'est le nom du site, CélineAlvarez.org, où on voit des vidéos, on voit bien tout, comment les enfants ont vécu ça, à Gennevilliers, dans votre expérience que vous avez vécue là-bas. Et on voit aussi des animaux. Alors vous proposez, non, aux enfants de mettre des animaux dans les différents continents, non?
Ah oui, je pensais que vous parliez d'animaux réels.
Ah non, 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 des animaux en plastique pour le coup.
Oui, on voit des petits animaux, oui, c'est un prolongement comme un autre, il peut y avoir plein de choses, mais avec les continents, sur le planisphère, le puzzle planisphère des continents, on aimait bien montrer, placer sur chacun des continents, des animaux très représentatifs des continents. On plaçait une girafe sur le continent Afrique, on mettait un écureuil sur le continent de l'Europe, etc. Puis on essayait de varier, de les changer régulièrement, ces animaux-là. Alors, à Gennevilliers, c'était vraiment important, parce que c'est du vocabulaire que les enfants n'avaient pas. Une girafe, ça pouvait être, peut-être, dans leur vocabulaire passif, ils pouvaient l'avoir entendu, encore que, mais alors dans leur vocabulaire actif, c'est-à-dire de là, ce qui eux-mêmes, quand on leur montre l'objet, puissent le nommer, c'était compliqué. Et comme on sait que le vocabulaire est prédictif de la réussite scolaire, puisqu'il prédétermine l'acquisition et l'automatisation de la lecture, c'était vraiment important, de toutes les manières possibles, d'offrir du vocabulaire précis, un vocabulaire riche aux enfants. Donc ça en faisait partie, en plus de leur offrir la connaissance des animaux les plus représentatifs des continents. Ça, ils aimaient beaucoup.
Alors, vous expliquez beaucoup aussi qu'avec les enfants, il faut beaucoup changer, bouger, proposer des choses différentes, faire des choses courtes. Il ne faut pas trop de répétitions. Enfin, on peut répéter la même chose avec un enfant, une activité, mais il semblerait aussi qu'il puisse s'ennuyer relativement vite quand même.
Ça, les neurosciences le montrent très bien. Les enfants et l'être humain en général apprend de manière solide lorsqu'il est motivé et enthousiaste. À partir du moment où on commence à se lasser de quelque chose, les zones de la mémoire s'activent beaucoup plus faiblement. Donc on ne peut pas demander à un enfant d'apprendre et de retenir encore moins quelque chose qui ne l'intéresse pas ou qui l'intéresse de moins en moins. Donc il s'agit vraiment de répondre à l'enthousiasme de l'enfant, de l'entretenir un petit peu, puis pas trop, parce qu'après il s'agit de faire attention, de ne pas lasser. Il faut conserver, je crois que c'est notre plus grande responsabilité de conserver ce trésor qui est l'enthousiasme des enfants, parce qu'il est extrêmement fécond et puissant. On ne peut pas, nous, avec nos cahiers, nos manuels scolaires ou notre étayage uniquement d'adultes, remplacer tout ce que va créer et élaborer chez l'enfant l'enthousiasme. Donc oui, je veillais beaucoup, et j'invite beaucoup à le faire dans le livre, il me semble, à proposer aux enfants toujours des séances ou des activités qui ne les lassent pas. Donc à soutenir leur enthousiasme, mais ne pas trop prolonger ces activités si on sent que l'enthousiasme commence à s'amenuiser.
Vous parlez aussi de toutes les activités qui peuvent être à l'extérieur de l'école. Et vous nous dites qu'avoir trop d'activités et puis un petit peu trop dirigé, c'est un peu beaucoup pour l'enfant.
Bah, c'est pas que c'est un peu beaucoup, c'est que c'est pas tout à fait adapté. Et donc ça finit par devenir beaucoup pour lui parce que ça le fatigue. Il y a des études qui ont montré, je trouve ça vraiment passionnant, que pour permettre un bon développement des compétences et des fonctions exécutives que j'évoquais tout à l'heure, qui sont, je le rappelle, les compétences socles de notre intelligence, plus prédictives que le QI pour la réussite globale, eh bien, les activités trop dirigées, donc des leçons de musique trop dirigées, des séances de sport trop dirigées, où c'est vraiment l'adulte qui va prendre en charge de l'extérieur l'objectif, donc il va fixer l'objectif et toute la planification de la tâche et qui va peut-être même souvent dénoncer l'erreur avant même que l'enfant s'en rende compte, eh bien, ça positionne les enfants dans un statut trop passif où ils ne peuvent pas exercer leurs compétences exécutives. Donc ça les fatigue, ça les ennuie, il y a peu d'intérêt, il y a peu de challenge, et ça ne leur permet pas de développer de bonnes compétences exécutives. Ça a été montré. Les enfants qui ont la possibilité d'avoir des activités, le même type d'activité, mais plus libre, moins dirigé de l'extérieur par l'adulte, donc où l'enfant va pouvoir prendre lui-même en charge toute la planification et l'organisation de la tâche et la détection de l'erreur et une stratégie pour y remédier, eh bien, développe vraiment de meilleures compétences exécutives. Vraiment, vraiment. Et ça, je trouve que c'est très intéressant d'y réfléchir un petit peu.
Et puis, bien sûr, on ne peut pas finir sans rappeler quelque chose qui, pour vous, est absolument essentiel. Le secret de tout, c'est l'amour.
Oui.
Merci beaucoup, Céline Alvarez. Je rappelle Les lois naturelles de l'enfant aux éditions des Arènes. Au revoir.